Alors, cher François, bonjour d'abord. Comment ça va en ce lundi matin?
Bonjour Clotilde. Eh bien, moi, je vais bien. Comme d'habitude, on ne confondra pas ma chronique avec la météo.
Non.
Et pourtant, où est passé le printemps?
Mais oui, il va revenir demain.
Vous êtes sûr?
C'est ce qu'ils disent, demain ou après-demain, genre. D'ici la fin de semaine, il fera au-delà de 20 degrés, je suis sûre.
Alors, j'ai tendance à vous croire ce matin, une fois de plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Le lundi matin, c'est votre rendez-vous. Avec « Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde ». Et ce matin, je vous invite à aller à la rencontre de deux êtres étonnants, deux très belles histoires à nouveau que je vous propose de partager à partir de deux articles. L'un extrait d'un site internet qui est monsieurmondialisation.org et l'autre également tiré d'un site internet qui s'intitule MaxiScience et c'est un papier signé par Emmanuel Perrin. Un voyage que je vous propose et qui va nous amener tout d'abord en Bolivie pour partir ensuite rapidement en Inde, puis nous irons au Japon. Et soyez sans crainte, Clotilde, nous serons de retour à Montréal à temps pour la suite de votre émission, Les Voies de Service. Première destination donc, la Bolivie et plus précisément le lac Poupo. Alors, le lac Poupo, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, où est-ce que c'est? C'est à plus de 3600 mètres d'altitude. C'est un lac important. Sa superficie varie de 1340 km² à plus de 2500 km² lorsqu'il est plein. Et à ce moment-là, il est en fait le second plus grand lac du pays, après le fameux lac Titicaca. Sa profondeur moyenne... sa profondeur moyenne est de 2,4 mètres. Et je serais tenté de dire sa profondeur moyenne était de 2,4 mètres. Parce que la raison pour laquelle je vous en parle ce matin, c'est que ce lac, en raison de la concordance des changements climatiques, c'est-à-dire le réchauffement mondial et puis le pic d'activité du phénomène El Niño en 2015, mais également de l'exploitation de ces eaux à des fins agricoles et minières, eh bien, le niveau du lac a rapidement baissé à partir de 2014 et en fait, il a pratiquement disparu à la fin de l'année dernière. En décembre 2015, plus de 99% de ce lac immense avait disparu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Trois zones humides de quelques kilomètres carrés. Alors, sans plus attendre... Et vous allez comprendre pourquoi. Nous prenons maintenant la destination de l'Inde. Si en Bolivie, rien n'a été fait pour sauver ce lac, eh bien en Inde, une situation bien, bien différente nous y attend. Il y a là-bas un homme qui, effectivement, lui, s'est levé. Il s'est tenu debout parce qu'il a voulu sauver une rivière. Il a commencé par une rivière. Et puis aujourd'hui, évidemment, son défi est beaucoup plus large. Mais attachons-nous à cette première rivière. Elle lui est importante parce que c'est une rivière qui est dans la région où il est né. Cette rivière, c'est la rivière Kalibagne. Sa région, c'est le Pendjab indien. Son nom, Sant Balbir Singh Sichewal. Et très rapidement, je vais l'appeler par son surnom, qui est Eco Baba. Un surnom qui lui a été donné, évidemment, en raison de son engagement écologiste. Alors, Eco Baba, qu'a-t-il fait? Eh bien, Eco Baba a réussi à mobiliser des centaines de ses compatriotes pour un vaste chantier à la fois pédagogique et pratique. Alors que cette rivière, la Kalibagne, était devenue un véritable égout à ciel ouvert, d'où la vie disparaissait littéralement, grâce à sa force de conviction et au soutien actif de nombreux volontaires, il a réussi à rallier les citoyens et une véritable prise de conscience s'est opérée sur la nécessité d'une meilleure gestion des déchets, sans aucun soutien des pouvoirs publics. Avec la seule solidarité locale, il a permis de rendre à cette rivière sa force vitale et de faire de ses rives des espaces de convivialité. Alors, comment tout cela est-il arrivé? Sous l'effet de l'industrialisation et de l'usage agricole des intrants chimiques, cette rivière Kalibagne était devenue effectivement le tout à l'égout de 6 villes et de plus de 40 villages. Ces eaux étaient polluées et en pénétrant les sols, elles ont également provoqué des maladies létales chez les habitants, tout en nuisant en plus évidemment à la productivité agricole. À tel point que l'eau, qui est un élément sacré de la religion sikh et source de vie, n'était plus en capacité d'accueillir la vie, y allait même jusqu'à disparaître du lit de ce ruisseau, frappé d'assèchement. L'histoire pourrait avoir terminé tragiquement, à l'image donc de Pupo, en Bolivie.
En Bolivie, oui.
Mais notre ami Eco Baba a agi à temps et il a évité une telle issue. En 2000, il a réussi à réunir autour de lui plus de 200 volontaires et tous ensemble, de leurs propres mains, ils sont allés dans cette rivière retirer des tonnes et des tonnes de détritus qui s'y trouvaient. Une tâche d'envergure qui a été réalisée selon la tradition sikh du service volontaire. Lui et ses compagnons ont donc enseigné aux locaux comment nettoyer efficacement le Calibagne. Ils ont listé des volontaires pour les travaux physiques. Ils ont levé les fonds nécessaires pour les travaux. Et des bénévoles d'une vingtaine de villages ont donc participé à un travail herculéen et nettoyé le lit de ces saletés, des plantes invasives en raison de la pollution et de la vase. Le collectif, ensuite, a également construit des berges et des chemins le long de la rivière. Alors, ce projet, c'est un peu le fruit d'un échec, l'échec des pouvoirs publics, bien sûr, à limiter les productions industrielles. Et quand les appels au gouvernement et aux municipalités ont échoué à faire interdire le déversement des eaux usées dans la rivière, eh bien c'est là que Eco Baba a lancé une campagne d'information pour encourager les villageois à évacuer les eaux sales d'une autre façon. Et des paysans se sont mis en accord entre eux pour un partage de l'eau traitée. Alors le lit de la rivière ayant été nettoyé, il fallait ensuite une consolidation des berges. Depuis lors, des arbres ont été plantés le long des rives et la pêche a été interdite afin de sauvegarder la biodiversité. Le tout, à nouveau, sans aucune aide de l'État, des pouvoirs publics, ni d'une quelconque institution. À présent, le Calibagne est florissant, les familles s'y rendent pour pique-niquer et des bains rituels s'y déroulent lors des festivités religieuses. Quant à Eco Baba, évidemment, son combat continue. D'autres rivières l'attendent. Et une question, évidemment, nous vient à l'esprit. Y a-t-il un Eco Baba en Occident? Alors, oui. C'est notre premier partage ce matin. C'était d'accord. L'Inde. Maintenant, mettons le cap tout de suite, sans plus attendre, vers le Japon. Mm-hmm. Et que se passe-t-il là-bas? Eh bien, vous vous en souvenez sans doute, Clotilde, et j'imagine que nos auditeurs, nos auditrices s'en souviennent aussi. En mars 2011, précisément le 11 mars 2011, le Japon était frappé par un séisme, un tremblement de terre de magnitude 9 sur l'échelle de Richter. Mmh. 50 minutes après la première secousse, un tsunami,
oui.
Évidemment, a déferlé sur les côtes du Japon et ce sont des vagues de 15 mètres qui se sont abattues. Alors, pardon, la raison pour laquelle j'évoque tout ça, eh bien évidemment parce que c'est à la suite de ce séisme et de ce tsunami qu'il y a eu cette malheureuse, dramatique catastrophe nucléaire de Fukushima. Nous partons là-bas. Pourquoi ? Parce qu'un homme, Naoto Matsumura, un homme de 55 ans, est retourné vivre dans cette zone d'exclusion. Et il s'occupe depuis 3 ans des animaux qui ont été abandonnés en urgence lors de l'évacuation des villes environnantes. Les habitants, évidemment, ont été évacués. Ils ont laissé derrière eux leurs effets personnels, mais aussi leurs animaux. Et ces laissés pour compte ont aujourd'hui trouvé un protecteur, Naoto Matsumura. Il est désormais connu comme le gardien des animaux de Fukushima. Car en dépit des mesures de sécurité imposées par les autorités, ce Japonais est retourné vivre dans la zone d'exclusion qui s'étend sur une vingtaine de kilomètres autour de la centrale. Il est retourné là où il a toujours vécu, à Tomioka, une petite ville côtière qui se situe à moins de 10 kilomètres du site accidenté. Et il explique. « Je suis né et j'ai grandi dans cette ville, et lorsque je mourrai, je veux être à Tomioka. » Alors lors de son retour à la ferme familiale, l'homme a été évidemment bouleversé par la situation critique dans laquelle se trouvaient les animaux, laissés dans l'urgence à leur triste sort. Tous étaient dans un état de négligence déplorable, sans nourriture, ils étaient pour la plupart encore attachés ou enfermés dans des étables. Naoto les a tous libérés, il a commencé à les nourrir et à les soigner. Il raconte avoir vu des cadavres, des centaines de bovins, des troupeaux entiers qui ont été emmenés pour être euthanasiés. Et puis il y a même ce chien, il s'en souvient. Un chien qui a été enfermé pendant presque un an dans une grange et qui n'a survécu que grâce à des carcasses de vaches. Il l'a appelé qui sait qui. ce qui signifie le miracle.
Ah oui, en effet.
Alors, cela fait effectivement maintenant presque 3 ans que notre ami Naoto Matsumura mène à bien cette mission. Il parvient à vivre et à acheter de la nourriture pour ses animaux grâce aux dons qu'il reçoit de personnes qui ont été touchées par sa force de volonté. Une association même, Kitsuma, a été créée avec un site officiel, une page Facebook. Elle a été créée en 2014 afin de l'aider à poursuivre sa mission en récoltant évidemment des dons. Alors, même s'il peut paraître inconscient, le japonais est tout à fait lucide quant au risque auquel il est confronté. Son organisme a été exposé à une quantité de radiation 17 fois supérieure à la moyenne. Et il a même dû assimiler, pendant un certain temps, de la viande, du poisson, des légumes qui étaient contaminés. Mmh. Alors, évidemment, on a fait le point sur sa situation. L'homme a accepté de se faire examiner par des chercheurs de l'agence spatiale japonaise. Et interrogé par le magazine Vice, il raconte... Lorsque je suis arrivé là-bas pour leur permettre de m'ausculter, ils m'ont dit que j'étais un champion. Il ajoute, ils m'ont dit aussi que je ne serais pas malade avant 30 ou 40 ans. Alors, d'ici là, je serais sûrement mort de toute façon. Donc c'est le cadet de mes soucis, ajoute-t-il. L'homme est entièrement dévoué à sa cause. Il passe plus de temps auprès de ses bébés qu'auprès de son propre enfant qui est né en 2013. Son propre enfant, un petit garçon, né de son union avec une femme rencontrée lors d'une conférence sur le nucléaire au Japon. Pourquoi ? Eh bien parce que si ces animaux lui apportent du réconfort et lui ont permis de survivre, eh bien cet homme, lorsqu'il ne prend plus soin de ses bêtes, eh bien il élève la voix dans le monde entier contre le nucléaire.
Exactement. Eh bien bravo. Il nous reste encore une petite minute.
Toute petite minute,
oui,
alors.
Quand vous entendez de la musique, c'est parce qu'il vous reste une petite minute.
Eh bien je vais la consacrer à ceci. À nouveau, deux belles histoires. Et comme on le constate à chaque fois, eh bien, ce sont des êtres humains avec une étonnante capacité à se dépasser, à sortir de leur zone de confort, à prendre des risques que beaucoup jugeraient irraisonnables. C'est à ce prix-là, je crois, que ces êtres font une différence. Ils impressionnent, mais surtout, ils inspirent. Ils ouvrent le chemin pour d'autres. Ils nous rappellent que la vie est au-delà des limites que nous lui donnons bien souvent. Ces limites, c'est cette fameuse zone de confort. À ne pas oublier...
Absolument, merci beaucoup. Ce sont des belles histoires que l'ami François de Beaulieu vient nous raconter tous les lundis matins. Ne manquez pas ça. Merci beaucoup François, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci à vous tous, à vous toutes et à très bientôt donc.
Salut.